Il se passe des choses étranges dans nos sociétés, souvent des choses graves, mais il se trouve que ces dernières années, spécialement aux États-Unis et puis dans l'Europe du Nord, un certain nombre de scientifiques se penchent sur ce qu'on appelle en français les EMI, les expériences de mort imminente. Et avec notamment toutes les données recueillies par l'intelligence artificielle, cela devient des faits étonnants. On nous dit notamment que 9 personnes sur 10 qui ont fait de telles expériences disent se trouver en présence d'une puissance d'amour. Je cite, une puissance lumineuse, une puissance irradiante. Et il y a plusieurs conséquences. La première, c'est qu'un certain nombre de ces personnes disent que leur vie change. Elles ont en tout cas la certitude que la seule chose importante est désormais en cette vie de vivre une qualité d'amour. Ce ne sont pas des conversions au sens évangélique du terme, mais une deuxième conséquence, c'est que ces personnes disent changer de vie, en comprenant ce qui est l'essentiel et ce qui est plus secondaire. Et puis il y a des conséquences anthropologiques assez importantes, notamment que quand on parlait de mort clinique jusqu'à présent avec l'encéphalogramme plat, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans et hors le cerveau, que le cerveau n'est pas la conscience et qu'il y a une dimension de la conscience qui n'appartient pas à notre dimension spatio-temporelle. C'est quand même surprenant parce que la science, quand même, elle a passé plusieurs siècles à observer les phénomènes et beaucoup, notamment des croyants, en ont conclu que la foi ne tenait pas la route sur le plan intellectuel. Et ça arrive, c'est mon deuxième point, au moment où nous, les chrétiens, les catholiques, on a du mal à parler de l'au-delà. J'avoue que je le regrette, que dans l'Église, dans les prédications, dans nos revues, nous ne parlons pas davantage de l'au-delà, de la promesse de notre résurrection, de l'accomplissement de notre baptême. Et je me demande, mais d'où vient ce non-dit ? Certes, nous avons peur d'en parler, nous avons peur de retomber dans l'excès des temps jadis, où vous vous rappelez, le prédicateur parlait du jugement dernier, pour que les troupes marchent bien en ligne. Il pouvait parler de l'au-delà comme s'il était déjà venu voir ce qui s'y passait et vous en parler. Peut-être aussi qu'il y avait une dimension politique en parlant de l'au-delà, on faisait accepter la pilule amère d'un ordre social qui était compliqué, etc. Mais ce temps quand même est loin. Et derrière tout ce que nos pères nous disent de l'au-delà, il y a une bonne nouvelle pour chacun de nous. Par exemple, on a beaucoup de mal de parler du jugement dernier, du jugement particulier. Mais c'est un moment, peut-être ce sera le moment le plus important de nos vies. Saint Jean de la Croix dit, nous serons jugés sur l'amour. C'est notre dignité, notre responsabilité qui sera en jeu à ce moment-là. La confiance que nous aura donnée Dieu. Je ne sais pas comment ça se passera, mais certainement, nous entendrons cette phrase de l'Écriture, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et puis avec toutes les paraboles de Matthieu que nous avons entendues dimanche après dimanche, nous savons que nous n'avons rien à craindre de Dieu qui n'est que bonté, mais nous, comment nous allons réagir ? Moi le premier, c'est moi qui, devant la miséricorde, mon problème ce sera de me juger au point d'avoir pas assez de foi, d'espérance, de me laisser gagner par les bras grands ouverts du Christ qui mènera vers son Père. Et quand je pense à mon jugement, eh bien, ça me remet en route, ça me requinque. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et dans la tradition ignatienne, chaque jour, nous avons le moment de la relecture, qu'on appelle aussi la prière d'alliance. Je crois qu'on pourrait le voir comme une anticipation du jugement. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée ? Merci, pardon, s'il te plaît. Il y a aussi, avec la question du jugement, une autre bonne nouvelle. Cette communion des saints, cette immense solidarité dans le corps du Christ ressuscité, avec les vivants et les défunts. Il y a une communion qui nous donne une joie profonde, c'est le sens de cette fête d'aujourd'hui. Il y a ceux qui sont déjà dans la paix de Dieu, dans la communion trinitaire, et puis ceux qui sont en travail, parce qu'on ne peut pas entrer dans le monde de l'amour sans un infime même repli sur soi-même. Il faut que nous soyons complètement libres. Le père Varillon, que beaucoup d'entre vous connaissent, était assez provocateur quand il parlait des fins dernières. Il disait, il y a la symbolique du feu, reprenons-la. Et c'est le même amour, c'est ce même feu qui brûle au ciel, en enfer et au purgatoire. Il voulait dire que nous serons tous face au mystère de Dieu, avec ce grand problème de l'enfer. Excusez-moi de parler un peu cash, mais qui pourrait sembler presque une défaite de Dieu, mais Varillon disait, en creux, c'est une bonne nouvelle, c'est le mystère de notre liberté et de l'infini respect que Dieu a pour nous jusqu'au bout. Quelqu'un disait, il n'y aura que des volontaires dans l'enfer, on espère qu'il n'y aura personne, c'est notre espérance, mais cette possibilité, là aussi nous requinque, nous remet dans le chemin. À Saint-Ignace, c'est la troisième année maintenant que chaque mardi, à la messe de 12h10, au moment de l'homélie, nous suivons le programme « Préparons notre résurrection ». Le titre vient d'un autre père, le père Michel Rondet. Il avait raconté qu'il taquinait une de ses vieilles amies, qui baissait en âge, qui avançait, et il lui disait « Ah, tu te prépares à mourir ?» Elle l'avait regardé, elle avait dit « Non, je prépare ma résurrection. » Alors le père Rondet en avait fait un article, puis un livre, tellement cette expression l'avait marqué. Et c'est vrai qu'il faut rompre un certain silence. Mardi dernier, dans l'assemblée, j'ai aperçu une dame que je connais un peu, qui a beaucoup de mal à marcher maintenant, et je la voyais venir spécialement. Que voulez-vous, il y a une attente. Il faut mettre des mots, et nous avons reçu une bonne nouvelle. Et spécialement pour les plus âgés d'entre nous, au fur et à mesure que mon corps baisse, eh bien notre intériorité peut gagner en densité. Elle peut monter en intensité. Et osons parler de la grandeur de la promesse du Père accomplie en son Fils Jésus. Alors il est vrai que même si nous avons une belle vie chrétienne, plus on avance en âge, plus on se pose des questions de plus en plus. Je voyais une sœur il y a quelques jours qui a une très belle vie, mais elle disait « Je ne sais plus rien ». Alors elle pose des actes de foi, disait-elle. Il peut y avoir une amitié aussi grandissante en Jésus. On est saisi par la bonté du Père. On ne sait plus trop ce qui va se passer, mais on est sûr d'une chose, c'est que je ne serai pas déçu. Et puis, il y a la peur qui est toujours là. Il faut en parler en face. Pas forcément la peur de mourir, mais la peur de souffrir. Même si nous avons cet immense privilège d'être arrivés à un siècle où on a appris à soulager la douleur, mais il y a cette prolongation de la vie qui est une dette aussi. Je me rappelle une personne dans le sud de la France que j'ai connue. Elle m'expliquait que quand elle allait aux obsèques de ses amis, de ses proches, au moment où elle prenait l'eau pour signer le baptême au cercueil, elle disait « Vénard, Vénarde ». Dans le sud, on n'est pas. En tout cas, que cette fête de la Toussaint nous entraîne dans la joie, nous remette sur notre axe, et puis nous fasse communier à la grande communion des saints. Amen.